From the conference center at Temple Square.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des cinq derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.
This broadcast is furnished
as Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, président de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this morning to the fourth.
Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous saluons tous ceux d'entre vous qui suivent cette réunion à la radio, à la télévision, par Internet ou transmission satellite. Nous remercions les propriétaires et les exploitants des réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. Nous saluons ce matin les personnalités des gouvernements, du monde de l'enseignement et les édiles ici présents. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Hosanna au grand roi ». Et interprétera à présent la première prière de Joseph Smith. Ensuite, Anthony D. Perkins, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur.
Music rings. Our Father who art in heaven, we
notre Père qui est aux cieux, nous, quelques-uns de tes enfants, en tant que disciples de ton Fils Jésus-Christ, nous t'exprimons notre gratitude de pouvoir être assemblés et d'être édifiés par tes apôtres et tes prophètes et tes dirigeants. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement de l'Évangile dans ces derniers jours à travers le prophète Joseph et la connaissance qui en a découlé à travers la première vision. Nous te remercions de la révélation continue à travers Thomas S. Monson. S'il te plaît, bénis-le et soutiens-le dans cet appel sacré. Nous aimerions te remercier pour le plan de salut et le plan de bonheur qui est centré sur ton Fils Jésus-Christ et sur son expiation, qui donne un sens à nos vies. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour t'adorer en esprit et en vérité. S'il te plaît, envoie ton esprit sur ceux qui vont chanter et parler, afin qu'ils puissent parler par la langue des anges. Nous prions que tu envoies ton esprit aussi sur nous qui écoutons, pour que les mots puissent entrer dans nos cœurs. S'il te plaît, bénis aussi tous ceux qui viennent te demander quelque chose afin qu'ils aient une révélation personnelle. Que ceux qui ont besoin de consolation puissent être consolés, qu'ils puissent savoir qu'à travers ta grâce, ils puissent passer les épreuves qu'ils affrontent tous les jours. Bénis aussi ceux qui ont besoin de se repentir afin qu'ils aient le courage de le faire et la force. S'il te plaît, bénis-nous afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions être de meilleurs disciples de ton Fils et de bénir les membres de nos familles ainsi que les dirigeants que tu nous as donnés. Nous te prions pour que ton esprit soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, amen.
choir just sang.
Le chœur vient de chanter He Sent His Son. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, après quoi nous entendrons D. Todd Christofferson, qui vient d'être soutenu comme membre du Collège des Douze Apôtres. Et il sera suivi de Sheldon F. Child, des 70.
How blessed we are by the beautiful music of the
Comme nous sommes bénis avec cette belle musique que nous venons d'entendre par le chœur. Mes chers frères, sœurs et amis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir le grand honneur d'être membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, et d'être l'un d'entre vous. Je me souviens de ma première réaction quand j'ai reçu du Seigneur l'appel sacré de servir comme nouveau membre de la première présidence de l'Église. J'ai ressenti une immense joie. Depuis, j'ai découvert de nouvelles dimensions des mots humilité, gratitude et foi. Je peux vous assurer que personne n'a été plus surpris de mon appel que mes enfants et mes petits-enfants. Dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous ne recherchons pas ni ne refusons les appels qui viennent de Dieu par des canaux de la prêtrise inspirés. Je prie Dieu de m'accorder la force et un cœur qui comprend pour magnifier cet appel sacré selon la volonté et les desseins de Dieu. Le président Hinckley nous manque. Son influence sur cette grande œuvre continuera d'être une bénédiction pour nous. Je suis très honoré de travailler aux côtés du président Monson. Je le connais depuis de nombreuses années. C'est un homme étonnamment doué et talentueux. C'est le prophète de Dieu. Sa foi et son cœur aimant sont tournés vers tous les pays, toutes les langues et tous les individus. Je suis reconnaissant de servir avec le président Ayring, que j'aime et que je respecte comme grand dirigeant et grand instructeur dans le royaume de Dieu. Quand le Collège des Douze s'est réuni dans la salle haute du temple de Salt Lake City pour soutenir le président Monson comme 16e président de l'Église, j'ai été émerveillé par les capacités, la sagesse et la spiritualité extraordinaire des personnes qui m'entouraient. Cela m'a fait prendre plus clairement conscience de mes propres incapacités. J'aime ces hommes de grande foi. Je suis reconnaissant de l'occasion de lever la main pour les soutenir, leur promettre mon soutien. J'aime et je soutiens Frère Christofferson, le nouveau membre des Douze. Quand le Seigneur a appelé Frederick J. Williams comme conseiller de Joseph Smith, le prophète, il lui a commandé « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné. » Va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. Je crois que ce conseil s'applique à tous ceux qui acceptent des appels à servir dans le royaume de Dieu et certainement à moi à cette époque de ma vie. Je voudrais dire un mot du président Monson. Il y a quelques années, il est venu à une conférence régionale à Hambourg, en Allemagne, et j'ai eu l'honneur de l'accompagner. Il a une mémoire remarquable, et nous avons parlé de nombreux saints d'Allemagne. J'étais stupéfait qu'il se souvienne aussi bien d'eux. Il a demandé des nouvelles de Michael Panisch, ancien président de Pieux, puis patriarche, qui a été l'un des pionniers exemplaires de l'Église en Allemagne. Je lui ai dit que frère Panisch était gravement malade, qu'il ne pouvait plus quitter son lit et qu'il ne pouvait plus assister aux réunions. Frère Monson a demandé si nous pouvions lui rendre visite. Je savais que peu avant sa venue à Hambourg, le président Monson avait subi une intervention chirurgicale au pied et que la marche lui était douloureuse. Je lui ai expliqué que frère Panisch vivait au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur et qu'il faudrait monter les escaliers pour le voir. Mais le président Monson a insisté, alors nous y sommes allés. Je me souviens comment il a été difficile au président Monson de monter ces escaliers. Il ne pouvait monter que quelques marches et devait s'arrêter pour se reposer. Il n'a pas murmuré un mot de plainte et il ne voulait pas faire demi-tour. Comme l'immeuble avait des plafonds hauts, Les étages semblaient interminables. Mais le président Monson a persévéré de bon cœur jusqu'à l'appartement de frère Panitch au cinquième étage. Une fois arrivés, nous avons passé un moment formidable. Le président Monson a remercié en souriant frère Panitch de sa vie de service dévouée. Avant de partir, nous lui avons donné une merveilleuse bénédiction de la prêtrise. Personne d'autre que frère Panitch, sa famille proche et moi-même n'a vu cet acte de courage et de compassion. Le président Monson aurait pu choisir de se reposer entre nos réunions longues et fréquentes. Il aurait pu demander à voir certains des beaux sites de Hambourg. Je me suis souvent dit qu'il avait été remarquable de préférer voir, plus que toutes les vues de cette ville, un membre de l'Église faible et malade qui avait servi le Seigneur fidèlement et humblement. Le président Monson était venu à Hambourg pour instruire et bénir les gens d'un pays, et c'est ce qu'il a fait. Mais en même temps, il s'est concentré sur les individus, nom par nom. Sa vision étendue lui permet de comprendre les complexités d'une Église mondiale, mais il a aussi suffisamment de compassion pour se concentrer sur l'individu. En parlant de Jésus, qui avait été son ami et son instructeur, l'apôtre Pierre a donné cette description simple. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. On peut dire la même chose de l'homme que nous soutenons aujourd'hui comme le prophète de Dieu. Je suis étonné de la différence des origines des membres de l'Église. Vous venez de toutes les situations sociales, culture, langue, régime politique et tradition religieuse. Cette multiplicité d'expériences de la vie m'a fait réfléchir au message de l'un de nos cantiques en anglais sur la foi de nos pères. Dans le refrain, on répète les mots suivants. Foi de nos pères, sainte foi, nous te serons fidèles jusqu'à la mort. La foi de nos pères, j'aime beaucoup cette expression. Pour beaucoup de membres de l'Église, ces mots font penser à des pionniers vaillants qui ont abandonné le confort de leur maison et sont partis en chariot et à pied rejoindre la vallée du Grand Lac Salé. J'aime et j'honore la foi et le courage de ces premiers pionniers de l'Église. Mes ancêtres vivaient de l'autre côté de l'océan à cette époque. Aucun ne faisait partie des gens qui ont vécu à Nauvoo ou à Winter Quarters, et aucun n'a traversé les plaines. Mais en tant que membre de l'Église, je revendique avec gratitude et fierté ce patrimoine pionnier comme étant le mien. Avec la même joie, je revendique les patrimoines des pionniers actuels de l'Église qui vivent dans tous les pays et dans les histoires de persévérance, de foi et de sacrifice ajoutent des lignes glorieuses au grand refrain de l'hymne du royaume de Dieu dans les derniers jours. Quand ma famille réfléchit à l'expression « la foi de nos pères », c'est souvent la foi luthérienne qui vient à l'esprit. Pendant des générations, nos ancêtres ont appartenu à cette Église. En fait, mon fils a découvert récemment que l'une de nos lignées remonte à Martin Luther lui-même. Nous honorons et respectons les âmes sincères de toutes les religions, quel que soit l'endroit et l'époque où elles ont vécu, qui ont aimé Dieu, même sans la plénitude de l'Évangile. Nous les louons avec gratitude pour leur altruisme et leur courage. Nous les prenons dans nos bras comme des frères et sœurs, enfants de notre Père céleste. Nous croyons que c'est un droit de l'homme fondamental d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience, et nous reconnaissons le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent, ou ce qu'ils veulent. Comme l'Église rétablie de Jésus-Christ se répand sur tout le globe, Elle compte maintenant plus de 13 millions de membres. La foi de nos pères a une signification plus large. Pour certains, cela peut signifier un patrimoine familial dans l'une des centaines de religions chrétiennes. Pour d'autres, cela peut signifier des religions, des traditions du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Afrique. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans des régions du monde où les membres de notre Église sont une petite minorité. J'ai alors constaté que souvent, quand les gens trouvent l'Évangile rétabli, ils sont impressionnés. Beaucoup veulent même se joindre à l'Église, mais ils hésitent à décevoir leurs ancêtres. Ils ont le sentiment qu'ils doivent être fidèles à la foi de leur père. Je me rappelle avoir remarqué dans ma jeunesse une nouvelle famille un dimanche à l'église, une jeune mère avec ses deux filles. Elles se sont rapidement fait baptiser toutes les trois et sont devenues membres de l'église. Je connais bien l'histoire de leur conversion parce que l'aînée des filles s'appelait Harriet et qu'elle est par la suite devenue ma femme. La mère d'Harriet, Carmen, venait de perdre son mari et pendant une période d'introspection, elle s'était intéressée à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Après avoir étudié la doctrine, Carmen et ses filles ont su que l'Église était vraie et elles ont prévu de se faire baptiser. Quand Carmen a fait part à sa mère de sa décision, celle-ci a été catastrophée. Elle a demandé, « Comment peux-tu être à ce point infidèle à la foi de tes pères ?» La mère de Carmen n'était pas la seule à objecter. Une de ses sœurs, qui avait du caractère, Lisa, a été profondément troublée par la nouvelle. Le mot « troublée » est peut-être trop faible. Elle était très en colère. Elle a dit qu'elle irait trouver ces jeunes missionnaires et leur dirait qu'ils avaient tort. Elle est allée à l'église, a trouvé les missionnaires, et vous devinez, Lisa s'est aussi fait baptiser. De nombreuses années plus tard, la mère de Carmen a aussi acquis le témoignage que l'évangile de Jésus-Christ avait été rétabli sur la terre. Elle a dit un jour à ses filles et à ses petits-enfants, « Je veux être dans les mêmes cieux que vous. » Alors qu'elle avait environ 75 ans, elle est aussi entrée dans les eaux du baptême et est devenue membre de l'Église. Alors, qu'est-ce que la foi de nos pères? Est-ce la religion de nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents? Mais qu'en est-il de la foi des plus anciens avant eux? Et Abraham, Isaac, Jacob, ne sont-ils pas nos pères? Ne sommes-nous pas de la maison d'Israël? Et Noé, Enoch et nos premiers parents, Adam et Ève, et le Sauveur et les disciples qui l'ont suivi. La foi de notre Père céleste a été constante depuis le début des temps, même depuis plus loin que la fondation de ce monde. Jean le Révélateur a décrit une grande guerre dans les cieux. L'objet en était le libre arbitre, comme aujourd'hui. Tous les gens qui ont jamais vécu sur cette terre faisaient partie de ceux qui ont combattu contre Satan et qui étaient avec le Fils et le Père. Par conséquent, ne devons-nous pas allégeance à Dieu, notre Père céleste? En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Nous croyons au grand plan du bonheur, le plan de rédemption, le plan de salut, selon lequel les enfants de Dieu peuvent venir dans la condition mortelle, puis retourner en présence du Père, un plan miséricordieux conçu avant la fondation de cette terre. C'est le plan et la foi de notre Père. Je témoigne que la doctrine de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ est la foi de notre Père céleste. C'est sa vérité révélée à ses serviteurs, les prophètes, depuis le temps de notre Père Adam jusqu'à notre époque. Le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith pour rétablir la foi de notre Père sur cette terre, pour qu'elle ne soit plus jamais enlevée. Dieu désire que tous ses enfants la reçoivent, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur tradition. La véritable religion ne doit pas être le produit de ce qui plaît aux hommes ou des traditions des ancêtres, mais de ce qui plaît à Dieu, notre Père éternel. La révélation continue est un élément fondamental de cette foi. La première prière de Joseph Smith en est le témoignage puissant. La révélation est une boussole constante qui nous indique toujours la volonté et la foi de notre Père céleste. Notre Père céleste aime ses enfants. Il entend les prières des humbles et des sincères de tout pays, toute langue et tout peuple. Il accorde la lumière à ceux qui le cherchent, l'honorent et veulent obéir à ses commandements. Nous proclamons joyeusement que la foi de notre Père est sur terre aujourd'hui. Nous invitons tous les habitants de notre belle planète à goûter sa doctrine et à voir comme elle est douce, bonne et précieuse. Nous demandons aux cœurs sincères d'étudier sa doctrine et de demander à leur Père céleste si elle est vraie. Et s'ils le font, ils pourront découvrir, embrasser la vraie foi de leur Père et la suivre. Et cette foi les guérira. C'est notre message au monde. Je témoigne solennellement de la réalité de Dieu, le Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, et des prophètes vivants qui détiennent les clés qui sont parvenues en une chaîne ininterrompue de Joseph Smith à Thomas S. Monson aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a 15 ans, je me trouvais pour la première fois à la chaire du tabernacle. Je venais d'être soutenu comme 70. J'avais 48 ans. J'avais les cheveux épais et bruns. Je croyais savoir ce que voulait dire se sentir incompétent. À la fin des 45 minutes de mon discours, ma chemise était trempée de sueur. Cela avait été une épreuve. En comparaison, aujourd'hui me semble une expérience agréable. Quand le président Uchtdorf et frère Bednar ont été soutenus comme membres du Collège des 12 apôtres, un témoin de l'origine divine de leurs appels est venu à moi pendant la session. À ce moment, il m'a aussi été donné de comprendre les caractères éminents sacrés de l'appel et du ministère d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Les mots me manquent pour exprimer cette compréhension, parce qu'elle a été communiquée par l'Esprit à mon esprit sans parole. Quand j'y repense maintenant, cela me plonge dans la profondeur de l'humilité que je n'ai jamais éprouvée auparavant. Et je supplie mon Père Céleste de me soutenir comme il l'a toujours fait, pour que je sois à la hauteur d'une tâche bien au-delà de mes capacités naturelles, et que je puisse m'oublier et me perdre dans le service. J'ai confiance en lui. Et je sais que sa grâce est suffisante. C'est pourquoi j'engage sans réserve tout ce que j'ai et tout ce que je suis au service de Dieu et de son Fils bien-aimé. J'engage également ma personne, ma loyauté, mon service et mon amour au service de la première présidence et de mes frères des douze. Ma bénédiction patriarcale, que j'ai reçue à l'âge de 13 ans, de mon grand-père que j'aimais tendrement, déclare, entre autres, « Ton Père Céleste t'a envoyé dans cette dernière et glorieuse dispensation, afin que tu naisses dans la nouvelle alliance éternelle de parents bons et justes. » Avec une profonde gratitude, je reconnais que cela est une grande bénédiction sur laquelle repose ma vie. Je rends hommage à mes parents et avec amour reconnais ce que je leur dois à eux, à leurs parents et aux générations qu'ils ont précédées. Peu après mon appel, aux 70, je me suis trouvé sur la tombe de l'un de ses ancêtres morts des années avant ma naissance. En méditant sur les sacrifices qu'entraîna pour lui et sa famille leur acceptation de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, j'ai été envahi d'un sentiment de gratitude et de la résolution d'honorer son sacrifice et celui de ses descendants, en menant une vie de vertu et de fidélité à Dieu et aux alliances de l'Évangile. Quand j'exprime ma gratitude pour mes bénédictions, j'inclus mes chers frères et leurs femmes qui se trouvent être présents aujourd'hui. Ma femme et moi avons 4 fils et 1 fille, chacun marié à un excellent conjoint ou, dans le cas du plus jeune de nos fils, bientôt marié à une charmante jeune femme. Nous les aimons, eux et nos petits-enfants, et nous sommes reconnaissants du bien qu'ils nous font en étant fidèles au Sauveur et à son Évangile. Au sommet, il y a ma femme, Cathy, créatrice de notre foyer, lumière de ma vie, compagne constante et sage, pleine d'inspiration spirituelle et de bonne humeur, de bonne volonté et de charité. Je l'aime plus que je ne puisse dire, et j'espère le montrer de manière convaincante au cours des jours et des années à venir. J'ai eu la bénédiction de faire une mission en plein temps en Argentine pendant ma jeunesse sous la tutelle de 2 exceptionnels présidents de mission et de leurs femmes. Je remercie Dieu de l'influence durable qu'ils ont eue sur moi. Après que j'ai obtenu mon diplôme de droit, Cathy, nos enfants et moi avons successivement vécu au Maryland, au Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord et maintenant en Utah. Nous avons passé 3 années magnifiques au Mexique. Dans tous ces endroits, nous avons eu la bénédiction d'avoir d'excellents amis dans l'Église et en dehors qui nous ont aimés, instruits et accueillis, nous et nos enfants, et qui continuent de le faire. Je saisis cette occasion pour tous les remercier publiquement. J'ai un amour et un respect immense pour mes frères des 70 et pour l'épiscopat président. Je me réjouis de ce que la suite de mon service me gardera près d'eux et que nous aurons de fréquentes occasions de servir ensemble. Les révélations données à notre époque qui ont institué les 70 dans l'Église constituent l'un des miracles les plus profonds et peut-être les plus sous-estimés de l'Église de l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Les 70 sont la clé du succès de l'œuvre maintenant et dans les années à venir. Et c'est pour moi un insigne honneur que mon nom se soit trouvé parmi le leur. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vous rends mon témoignage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et du pouvoir de son sacrifice expiatoire infini. Ce faisant, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand je vivais au Tennessee. Un soir, j'ai reçu un appel d'un monsieur que je ne connaissais pas. Il s'est présenté comme étant un ministre d'une autre église à la retraite et a demandé à me rencontrer en privé le dimanche suivant. Lors de cet entretien, mon invité a déclaré franchement qu'il était venu car il s'inquiétait du bien-être de mon âme. Il a sorti de son porte-document une liste assez longue de citations scripturales tirées du Nouveau Testament et a dit qu'il désirait relire ces versets avec moi et voir s'il pourrait m'aider à être sauvé. J'ai été un peu surpris par sa franchise, mais je voyais qu'il était sincère et j'ai été touché par l'intérêt véritable qu'il me portait. Mon invité s'est entretenu avec moi pendant plus d'une heure. Il s'est montré prêt à écouter ce que j'avais expliqué sur ma religion, ainsi qu'à lire avec moi quelques enseignements du livre de Mormon qu'il ne connaissait pas. Nous avons découvert que nos croyances étaient souvent les mêmes et parfois différentes. Nous avons ressenti des liens d'amitié et avons prié ensemble avant son départ. Ce qui me reste de cet échange est notre discussion sur la nouvelle naissance, de quelle frère Elder M. Nelson a parlé hier. C'est la renaissance spirituelle en Jésus-Christ qui est le cadre du témoignage que j'ai en lui. Jésus lui-même a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'une personne naisse de nouveau, qu'elle naisse d'eau et d'esprit. Ses enseignements sur le baptême physique et spirituel nous aident à comprendre qu'à la fois nos actions et l'intervention de la puissance divine sont nécessaires à cette métamorphose, cette renaissance, à ce changement d'un homme naturel en un saint. Paul a décrit le fait de naître de nouveau par ce simple passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Examinons deux exemples tirés du livre de Mormon. Environ un siècle avant la naissance du Christ, le roi Benjamin enseignait à ses sujets la venue et l'expiation du Sauveur. L'Esprit du Seigneur a opéré un si grand changement chez les gens qu'ils n'avaient plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Du fait de leur foi au Christ, ils ont dit, « Nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements tout le reste de nos jours. » Le roi a répondu, « À cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. » Le cas d'Alma est également instructif. Pendant que ses amis et lui cherchaient à détruire l'Église du Christ, ils ont été réprimandés par un ange. Il s'est ensuivi pour Alma 3 jours et 3 nuits qu'il décrit ainsi. « J'étais torturé d'un tourment éternel. Oui, je me souvenais de tous mes péchés et de toutes mes iniquités, et à cause de cela, j'étais tourmenté par les souffrances de l'enfer. Enfin, après s'être repenti presque jusque la mort, comme il le formule, le doux message de Jésus-Christ et de son expiation lui est venu à l'esprit. Alma s'est écrié, « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis dans le fiel de l'amertume. » Il a reçu le pardon et il s'est levé pour confesser en public. Je me suis repenti de mes péchés et j'ai été racheté par le Seigneur. Voici, je suis né de l'Esprit. Et le Seigneur m'a dit, ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples, doivent de nouveau naître. Oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures. Lorsque nous réfléchissons à ces Écritures et à d'autres, il devient clair que la renaissance spirituelle tire son origine de la foi en Jésus-Christ, par laquelle, la grâce duquel nous sommes transformés. Plus précisément, c'est la foi au Christ, le Rédempteur, qui peut nous purifier du péché et nous rendre saints. Lorsque la foi véritable au Christ s'enracine dans une personne, elle le mène inévitablement au repentir. Amulek a enseigné que l'expiation du Sauveur apportera le salut à tous ceux qui croiront en son nom. Ceci est le but de ce dernier sacrifice. Réaliser les entrailles de la miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice, et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Pour être total, le repentir nécessite une alliance d'obéissance. C'est l'alliance exprimée par le peuple de Benjamin de faire la volonté de Dieu et d'être obéissant à ses commandements. C'est l'alliance dont témoigne le baptême d'eau, dont il est parfois fait référence dans les Écritures comme du baptême de repentir ou du baptême pour le repentir, étant donné qu'il est l'étape suprême de notre repentir. Puis, comme promis, le Seigneur nous a baptisés de feu et du Saint-Esprit. Néphu l'a formulé ainsi, car la porte par laquelle vous devez entrer est le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Nous étant ainsi reposés sur les mérites de celui qui est puissant à sauver, Nous sommes vivifiés dans l'âme intérieure. Et si nous ne sommes pas encore entièrement nés de nouveau, nous sommes certainement bien avancés sur le chemin de la renaissance spirituelle. Néanmoins, le Seigneur nous avertit de prendre garde étant donné qu'il est possible que l'homme déchoit de la grâce, même celui qui a été sanctifié. Comme Néphi l'a recommandé, nous devons marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérer jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Certains demanderont peut-être, pourquoi ce grand changement ne s'opère-t-il pas plus vite en moi? Vous devez vous souvenir que les exemples remarquables du peuple du roi Benjamin, d'Alma et d'autres personnes des Écritures sont justement remarquables et non la norme. Pour la plupart d'entre nous, les changements sont plus progressifs et se produisent avec le temps. Contrairement à notre naissance physique, naître de nouveau est davantage un processus qu'un événement. Et le but essentiel de la condition mortelle est de s'engager dans ce processus. Néanmoins, ne nous justifions pas par un effort superficiel. Ne nous satisfaisons pas de garder quelques dispositions à faire le mal. Prenons dignement la Sainte Cène chaque semaine et continuons à faire appel au Saint-Esprit pour arracher les derniers vestiges d'impureté en nous. Je témoigne que si vous continuez sur le chemin de la renaissance spirituelle, la grâce rédemptrice de Jésus-Christ éliminera vos péchés et les traces de ces péchés en vous. Les tentations perdront leur attrait, et par le Christ, vous deviendrez saints, tout comme le Père et lui sont saints. Je connais Jésus-Christ comme le Fils vivant et ressuscité de Dieu. Et je sais aussi que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable. Et je sais aussi que la justification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force. Je rends témoignage de l'existence et de l'amour de Dieu. Je pourrai toujours partager l'évangile du Christ dans tout le monde. Je vous rends témoignage de la réalité de l'amour de Dieu, notre Père céleste, à qui Jésus a donné toute sa gloire. J'aime Joseph Smith, le prophète, et je rends témoignage de lui par son association personnelle avec le Seigneur, en traduisant et publiant le Livre de Mormon. Et en scellant son témoignage par le sang de son martyr, Joseph est devenu le plus grand révélateur de Jésus-Christ dans sa véritable nature de rédempteur divin. Jésus n'a pas eu de plus grand témoin ni de meilleur ami que Joseph Smith. Je rends mon témoignage de l'appel de Thomas S. Monson comme prophète et président de l'Église de Jésus-Christ en ce moment. Et je m'engage à lui être loyal dans ce rôle sacré en tant que conseiller. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
When I was a young boy, lorsque j'étais enfant, un de mes voisins avait un troupeau de vaches laitières. L'une de ces vaches est morte, laissant un veau nouveau-né qu'il m'a donné. J'en ai pris soin, je l'ai nourri et élevé. Le jour où mon père l'a emmené au parc à bestiaux pour le vendre, j'avais des sentiments contradictoires. Je m'étais attaché à mon veau, et d'autre part, j'attendais de recevoir la récompense de mon travail. Je vais demander à avoir l'argent de la vente du veau en monnaie. Je me souviens de mon père rentrant ce soir-là et déposant $20 en pièces dans mes mains. L'argent était rare et je pensais avoir tout l'argent du monde. J'ai compté, admiré et astiqué soigneusement chaque pièce. Quand le dimanche est arrivé, j'ai mis à contre-cœur deux de mes pièces brillantes dans ma poche pour payer ma dîme. Aussi dur qu'il était de donner mes précieuses pièces d'argent à l'évêque,
Je me souviens encore comme je me sentais bien d'avoir obéi au Seigneur en payant ma dîme. Après l'école du dimanche, ma mère m'attendait près du bureau de l'évêque. Je pense qu'elle voulait juste s'assurer que j'avais bien payé ma dîme. Rentrant à la maison, elle m'a dit à quel point elle était fière de moi, puis elle a dit « Ton grand-père nous disait toujours, à nous ses enfants, que si nous payons notre dîme honnête, le Seigneur nous bénirait et que ce serait le meilleur investissement que nous pourrions faire jamais. » Mon grand-père comprenait qu'il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions, et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. La dîme est un commandement de Dieu, et quand nous obéissons à cette loi, il est lié par sa promesse de nous bénir. Même à 7 ans, c'était quelque chose que je pouvais comprendre. Notre prophète, Thomas S. Monson, parlant des lois de Dieu, a dit « Si nous les enfreignons, nous en subissons longtemps les conséquences. Si nous y obéissons, nous récoltons une joie éternelle. » Vous vous souvenez quand Israël a été puni d'avoir trompé Dieu? Le peuple a demandé « En quoi t'avons-nous trompé ?» La réponse a été « Dans les dîmes et les offrandes. » Puis les Israélites ont eu la promesse de Dieu que s'ils obéissaient à sa loi de la dîme, ils auraient droit à ses bénédictions. Le Seigneur a dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Le Seigneur a demandé aux Israélites de le mettre à l'épreuve, d'avoir foi en lui, afin qu'ils puissent tenir la promesse qu'il leur avait faite. Ce même commandement et cette même promesse sont en vigueur aujourd'hui. Quand nous respectons la loi de la dîme, la promesse du Seigneur est assurée. Nous recevrons des bénédictions à la fois matérielles et spirituelles, selon la sagesse et le calendrier du Seigneur. Ma femme, Joanne et moi, avons eu la bénédiction de vivre dans différentes parties du monde, parmi des gens qui se reposent quotidiennement sur le Seigneur pour leurs besoins matériels les plus fondamentaux. Les gens qui mettent toute leur foi pour payer leur dîme témoignent que les écluses des cieux sont ouvertes pour eux. Je me souviens d'un père fidèle aux Philippines qui racontait qu'après avoir payé sa petite dîme à l'évêque un dimanche, il rentrait chez lui avec ses enfants, sachant très bien qu'il n'avait rien à leur donner à manger en arrivant chez eux. Alors qu'ils marchaient, un énorme fruit d'un arbre à pain est tombé juste devant eux. Il a aussitôt levé les yeux et remercié Dieu d'avoir ouvert les écluses des cieux et de lui avoir envoyé un fruit d'un arbre à pain pour nourrir ses enfants. Nous vivons à une époque économique difficile. Mais si nous examinons les années passées, nous voyons des cycles récurrents. Il y a eu, et il continuera d'y avoir, des temps de prospérité relative et des temps d'incertitude financière. Mais quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, si nous commençons par payer ce que nous devons au Seigneur, puis faisons preuve de sagesse et de jugement, le Seigneur nous aidera à gérer les moyens qu'il nous a donnés. Herbert G. Grant a dit, « Je veux vous dire que si vous êtes honnête avec le Seigneur, payant votre dîme et respectant ses commandements, non seulement il vous accordera la lumière et l'inspiration de son Saint-Esprit, mais il vous bénira en dollars et en cents. Vous pourrez payer vos dettes, et le Seigneur déversera sur vous des bénédictions matérielles en abondance. » En 1936, au plus fort de la Grande Dépression aux États-Unis, quand les gens avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, John A. Widsoe a exhorté les saints à payer leurs dîmes en raison des bénédictions spirituelles qu'ils recevraient.
Il a dit, l'obéissance à la loi de la dîme procure une joie intérieure profonde qu'on ne peut obtenir d'aucune autre manière. Les principes de vérité deviennent plus clairs. Il devient plus facile de prier. La sensibilité spirituelle est plus vive et l'homme ressemble davantage à son Père Céleste. Une mère d'Afrique occidentale nous a donné son témoignage de la dîme. Elle vendait des produits sur un marché. Chaque jour, en rentrant chez elle, elle comptait sa dîme et la mettait à un endroit particulier. Chaque dimanche, elle l'apportait fidèlement à son évêque. Elle nous a expliqué comment ses affaires avaient fructifié et comment sa famille avait été bénie par la santé, la force et suffisamment de nourriture. Puis, les larmes aux yeux, elle a dit, « Mais la plus grande de toutes les bénédictions est que mes enfants aiment le Seigneur et que nous sommes une famille éternelle. » Cette humble mère a compris que l'une des grandes bénédictions du paiement d'une dîme complète est la bénédiction d'entrer dans la maison du Seigneur et d'accomplir les ordonnances sacrées qui permettent aux familles d'être ensemble à jamais. Si nous payons fidèlement notre dîme, le Seigneur ouvrira véritablement les écluses des cieux et répandra sur nous la bénédiction en abondance. Je veux que chacun de vous, et particulièrement mes enfants et mes petits-enfants, sache que je sais, comme mon grand-père, que si vous payez toujours une dîme honnête, le Seigneur vous bénira. Ce sera le meilleur investissement que vous pourrez faire. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Quel fondement ferme ». Sœur Susan W. Tanner, qui a été relevée hier de son appel de présidente générale des jeunes filles, nous adressera ensuite la parole. Après quoi, président Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres, s'adressera à nous. Maintenant, l'assemblée et le chœur chanteront.
Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Oh, In the Book of Mormon,
dans le livre de Mormon, Néphi parle souvent de délices. Il fait ses délices des choses du Seigneur, des Écritures et du grand plan éternel du Seigneur. On remarque que Néphi se souvient souvent des sources de ses délices lorsqu'il est au milieu de l'affliction, ce qui lui remonte le moral et lui permet de se concentrer sur les bénédictions éternelles. Nous aussi, nous devons faire nos délices des choses du Seigneur, car cela nous remontera le moral et nous donnera des raisons de nous réjouir. Je vais mentionner certaines des choses dont je fais mes délices. Je fais mes délices de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme Néphi, je mets ma gloire en mon Jésus, dans le rôle de service et de salut qu'il a joué sur la terre. Il apporte lumière et espoir et nous a donné le Saint-Esprit pour que nous continuions d'être guidés et réconfortés sur le chemin que nous devons suivre. Ce n'est que par lui que nous pouvons retourner à notre Père. Le salut ne peut parvenir aux enfants des hommes si ce n'est dans et par le nom du Christ. Je fais mes délices de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, édifié sur le fondement d'apôtres et de prophètes, avec lesquels j'ai eu la bénédiction de servir. Je témoigne que Thomas S. Monson est le prophète du Seigneur sur la terre aujourd'hui. Je me réjouis qu'il soit véritablement un ministre chrétien qui se préoccupe de chacun et qui se tourne vers chaque personne chaleureusement et avec amour. Je fais mes délices des clés de la prêtrise et des temples partout dans le monde, qui rendent les ordonnances et les alliances éternelles accessibles à chacun de nous. Récemment, les journées où je me suis sentie le plus proche des cieux ont été celles où mes enfants se sont mariés au temple et où mon père a accompli cette ordonnance sacrée. Je me réjouis dans la force des jeunes que je vois affluer dans les temples pour faire des baptêmes pour les morts. J'aime la dignité avec laquelle ils respectent les principes qui conduisent au temple et leur préparation pour être des missionnaires fidèles et des mères et des pères justes. Je me réjouis d'être fille d'un Père céleste qui m'aime. J'ai découvert mon identité divine toute jeune, aux côtés de ma mère. Tout récemment, j'ai vu ma petite fille de 3 ans apprendre son identité de sa mère. Elisa était allée se coucher en pleurs. Elle n'a pu être réconfortée que lorsque sa mère lui a raconté à nouveau l'histoire vraie et préférée de la fillette au sujet de la nuit particulière où notre Père Céleste avait distinctement et clairement murmuré au cœur de sa mère qu'Elisa était un esprit très précieux qui avait une mission noble à accomplir. Je fais mes délices de mon rôle de mère, qui me permet d'exprimer mon identité de femme la plus profonde. Je suis toujours frappée par la façon dont les femmes, les jeunes filles et même les petites filles semblent instinctivement vouloir et pouvoir prendre soin des autres. Non seulement c'est la responsabilité principale d'une mère, mais cela fait également partie de notre identité et de notre raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Élever consiste à instruire, veiller au développement, promouvoir la croissance, alimenter et nourrir. Qui ne pousserait pas des cris de joie en recevant un rôle aussi beau? Dans les Écritures, on trouve 2 fois l'expression suivante, corrigeant et avertissant selon le Seigneur. Dans les 2 cas, on parle de la responsabilité des parents d'élever leurs enfants. Le président Hinckley a également insisté sur le fait que l'homme et la femme doivent tous deux élever les enfants. Il a dit « La société dans laquelle nous vivons serait beaucoup plus belle si chaque père et chaque mère les considéraient comme un don du ciel et les élevait dans une affection réelle, dans la sagesse et le respect du Seigneur. » Je fais mes délices de la famille. Récemment, je me suis réjouie de la naissance d'une nouvelle petite fille dans une famille qui comprend que les parents ont la responsabilité solennelle de les élever dans l'amour et la droiture. Ses frères et sœurs aînés avaient une curiosité naturelle concernant la venue au monde de leur petite sœur. Leurs premières leçons sur ce sujet leur ont été données par leurs parents aimants dans le cadre sacré de la famille, dans l'atmosphère céleste qui accompagne la naissance d'une nouvelle âme dans la condition mortelle et dans le cadre du grand plan éternel de notre Père. Par contre, le lendemain, lorsqu'elle est rentrée de la maternelle, notre petite fille a raconté que ce jour-là, elle avait appris en classe un nouveau grand terme, sévice sexuel. Cela m'a préoccupée, qu'à ce jeune âge, les enfants aient déjà besoin, pour des raisons de sécurité, d'être au courant des aspects négatifs du sujet dont ils avaient si magnifiquement parlé la veille. Comme jamais auparavant, je me suis réjouie des familles aimantes fondées sur les enseignements de Jésus-Christ. Jacob enseigne que le Seigneur fait ses délices de la chasteté des femmes. Je fais mes délices de la chasteté et de la pureté de toutes les femmes et de tous les hommes. Comme cela doit attrister le Seigneur de voir que partout dans ce monde méchant, on profane la vertu et que l'on se moque de la pudeur. Comme ont appris mes petits-enfants, le Seigneur a prévu que ses enfants aient une grande joie par des relations intimes empreintes d'amour. Je me réjouis de la clarté de la déclaration au monde sur la famille, qui lance l'avertissement suivant. Les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales, devront un jour en répondre devant Dieu. Je fais mes délices des personnes dont on trouve l'exemple dans les Écritures, qui ont marché par la foi pendant leur voyage terrestre. Je pleure chaque fois que je marche avec Abraham, Isaac, sur la route conduisant au mont Moria, car je sais qu'Abraham ne sait pas qu'il y aura un ange et un bélier dans le buisson à la fin du voyage. Nous sommes tous au milieu de notre voyage sur terre et nous ne connaissons pas le reste de notre histoire. Mais comme Abraham, nous sommes souvent les bénéficiaires de miracles. Je fais mes délices des miséricordes et des miracles du Seigneur. Je sais que ces tendres miséricordes et ces miracles, grands et petits, sont réels. Ils se produisent à sa manière et au moment voulu par lui. Parfois, ce n'est pas avant que nous ayons atteint notre limite. Sur la mer de Galilée, les disciples de Jésus ont dû ramer avec peine toute la nuit dans un vent contraire, avant que le Maître ne leur vienne finalement en aide. Il n'est pas venu avant la quatrième veille, c'est-à-dire à l'approche de l'aurore. Mais il est venu. J'ai le témoignage que des miracles se produisent, même si parfois ce n'est pas avant la quatrième veille. À présent, j'exerce ma voix, je prie et j'attends de petits miracles en faveur d'êtres chers qui sont malades physiquement, affligés émotionnellement et égarés spirituellement. Je me réjouis de l'amour du Seigneur pour chacun de ses enfants et de la sagesse dont il fait preuve en nous permettant d'avoir des expériences terrestres à notre mesure. Pour finir, je me réjouis, plus que je ne puis l'exprimer, de l'amour éternel et de l'aide constante de mon mari, ainsi que des prières et du soutien de mes enfants et de mes parents durant mes années de service comme présidente générale des jeunes filles. Mon âme fait ses délices des choses du Seigneur, de la loi, de sa vie, de son amour. Faire de lui nos délices signifie reconnaître sa main dans notre vie. Le devoir que nous impose l'Évangile est de faire et d'aimer le bien. Lorsque nous nous réjouissons de le servir, notre Père Céleste se réjouit de nous bénir. Moi, le Seigneur, je me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. Je veux être toujours digne de faire ses délices. J'aime le Seigneur. En lui, mon âme se réjouit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
peu de temps après la mort de président Hinckley, 14 hommes, les apôtres, qui ont sur eux détenu, ont pu détenir les clés de la prêtrise, ont pu s'assembler dans le temple pour réorganiser la présidence de l'Église. Il n'y avait pas de question sur ce qui allait être fait. Pas d'hésitation. Nous savions que l'apôtre le plus âgé serait le président de l'Église. Et dans cette assemblée spéciale, Thomas Spencer Monson a été soutenu par le Collège des douze apôtres comme président de l'Église. Et ensuite, les conseillers ont aussi été soutenus, ordonnés et ont reçu l'autorité. Président Monson, qui détient l'autorité et toutes les clés de la prêtrise. Et comme les Écritures l'indiquent, il n'y a pas d'autre homme sur terre qui a le droit d'exercer toutes les clés, mais nous les tenons tous. Dans ce groupe, il y a dans ce groupe un homme qui est appelé et ordonné, qui devient le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Déjà, il avait été soutenu depuis des années en tant que prophète, voyant, révélateur. Il y avait alors un poste libre. Aujourd'hui et hier, nous avons soutenu un nouveau membre des douze, Elder Todd Christopherson. Il a maintenant rejoint cette fraternité sacrée, dans ce cercle sacré. Et donc ce cercle est maintenant rempli. L'appel des apôtres a commencé avec le Seigneur lui-même. Nous avions aussi soutenu quelques 70. Et ils ont maintenant pris leur place. Et les Écritures disent que c'est la responsabilité du Collège des Douze de diriger toutes les affaires de l'Église. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils doivent appeler ces 70 et pas des autres. Et maintenant, nous avons 8 collèges de 70, plus de 300 entre eux, qui détiennent toute l'autorité nécessaire pour faire ce que les 12 leur demandent de faire. Le Seigneur lui-même a mis en route ce rythme. Il est allé dans la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit en prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. André entendit Jean parler et courut auprès de son frère Simon et dit : Nous avons trouvé le Messie. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit : Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Simon et son frère André jetaient des filets dans la mer. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, réparaient leurs filets de pêche. Philippe et Barthélemy, Matthieu, un publicain ou percepteur d'impôts, Thomas, fils d'Alphée, Simon le Cananite, Jude, le frère de Jacques, et Judas l'Iscariot. Ils ont constitué le premier collège des douze. Il leur a dit à tous, « Venez, suivez-moi. » Il a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et il a dit aux douze, En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il a donné à ses apôtres pouvoir et autorité sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades partout. Et il a dit, Les 12 détiennent les clés pour ouvrir l'autorité de mon royaume aux quatre coins de la terre. Et ensuite, pour envoyer ma parole à toute la création. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand Jésus enseignait à la synagogue, beaucoup des disciples ont dit, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Après la crucifixion, les apôtres se sont souvenus qu'il leur avait dit qu'il devrait rester à Jérusalem. Puis est venu le jour de la Pentecôte, ce grand événement où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu une parole prophétique plus certaine et ont parlé selon qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et ainsi, ils étaient complets. Nous savons peu de choses sur leur voyage et seulement où et comment quelques-uns d'entre eux sont morts. Jacques a été tué à Jérusalem par Hérode. Pierre et Paul sont morts à Rome. La tradition veut que Philippe soit allé en Orient. Nous ne savons pas grand-chose de plus. Ils se sont dispersés, ils ont enseigné, témoigné et ont établi l'Église. Ils sont morts pour leur croyance. Et avec leur mort sont venus les sombres siècles de l'apostasie. La chose la plus précieuse qui ait été perdue dans l'apostasie a été l'autorité détenue par les 12, les clés de la prêtrise. Pour que l'Église soit son Église, il faut qu'il y ait un collège des 12 qui détienne les clés et puisse les conférer à d'autres. En temps voulu, se sont produits la première vision et le rétablissement de la prêtrise de Melchizedek par Pierre, Jacques et Jean. On leur a dit plus tard, je vous le dis, les clés de la dispensation que vous avez reçues sont descendues des pères et vous ont, en tout dernier lieu, été envoyées du ciel. Voyez comme votre appel est grand. Purifiez-vous le cœur et les vêtements de peur que le sang de cette génération ne soit requis de vos mains. L'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours était jeune lorsque la première présidence a été organisée, suivie du collège des 12 apôtres qui se composait d'hommes ordinaires et ensuite le collège des 70. Leur âge moyen du collège des 12 apôtres était de 28 ans. Il y a eu une ligne ininterrompue d'autorité. Les clés de la prêtrise données aux apôtres ont toujours été détenues par les membres de la première présidence et du collège des 12. Hier, Elder Todd Christofferson est devenu le 96e apôtre à faire partie des 12 dans cette dispensation. Il sera ordonné apôtre et recevra toutes les clés de la prêtrise que détiennent les 14 autres prophètes, voyants et révélateurs, apôtres du Seigneur Jésus-Christ. En 1976, une conférence générale d'interrégion s'est tenue à Copenhague. Après la session de clôture, président Kimball a désiré visiter l'église de Forfrey où se trouvent les statues de Thorsvalden, le Christus et les 12 apôtres. Il avait visité quelques années auparavant et il a estimé que nous devions tous y aller. À l'avant de l'église, derrière l'autel, se dresse la statue bien connue du Christ, les bras tendus vers l'avant et légèrement écartés, les mains montrant l'empreinte des clous, la blessure dans son côté étant bien visible. Le long de chaque côté se trouvent les statues des apôtres. Pierre à l'avant, du côté droit, les autres apôtres dans l'ordre. La majeure partie de notre groupe était près de l'arrière de la chapelle avec le gardien. J'étais à l'avant avec le président Kimball, devant la statue de Pierre, avec Rex Pinegar et Johan Helge Bentin, président du pieu de Copenhague. Dans la main de Pierre, il y a sculpté dans le marbre un trousseau de lourdes clés. Le président Kimball a montré les clés et a expliqué ce qu'elle symbolisait. Puis, dans un geste que je n'oublierai jamais, il s'est tourné vers le président Bentin avec une fermeté inhabituelle, l'a montré du doigt et a dit « Je veux que vous disiez à tout le monde au Danemark que je détiens les clés. Nous détenons les vraies clés et nous les utilisons tous les jours. » Je n'oublierai jamais cette déclaration, ce témoignage du prophète. S'en dégageait une grande puissance spirituelle et l'impression était presque même physique. Nous sommes allés au fond de la chapelle où était le reste du groupe. En montrant les statues, le président Kimball a dit au gentil gardien « Ce sont les apôtres morts. » En me montrant, il a dit « Ici, nous avons les apôtres vivants. Elder Packer est un apôtre. Elder Monson et Elder Perry sont des apôtres. Et je suis un apôtre. » Nous sommes les apôtres vivants. Vous avez lu qu'il y avait des 70 dans le Nouveau Testament. Et voici deux des 70 vivants. Elder Pinegar et Elder Hales. Le gardien, qui jusqu'alors n'avait montré aucune émotion, a soudain fondu en larmes. Il m'a semblé alors que j'avais eu l'expérience de ma vie. Nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l'Église primitive, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Lorsque les 70 sont ordonnés, bien qu'ils ne soient pas ordonnés apôtres ni le détiennent de clés, ils ont l'autorité. Et les 12 doivent faire appel avant tous autres aux 70 lorsqu'ils ont besoin d'aide pour remplir les divers appels à prêcher et administrer l'Évangile. Aujourd'hui, il y a 308 autorités 70 dans 8 collèges. Ils représentent 44 pays et parlent 30 langues. Nous n'entendons pas dire que des clés de la prêtrie sont exercées dans les autres églises chrétiennes. Il semble étrange que certains disent de nous que nous ne sommes pas chrétiens, quand nous sommes les seuls à avoir l'autorité et l'organisation qui l'a établie. Les 12 actuels sont des gens tout à fait ordinaires. Pas plus que les 12 originels, ils ne sont pas des personnalités spectaculaires, mais collectivement, les 12 sont un pouvoir. Nous avons exercé toutes sortes de métiers. Nous sommes des scientifiques, des hommes de loi, des enseignants. Frère Nelson a été un pionnier de la chirurgie cardiaque. Il a effectué des milliers d'interventions chirurgicales. Il m'a dit qu'il donnait à chaque patient qui subissait une chirurgie cardiaque une garantie à vie. Plusieurs dans ce collège ont été militaires, un marin, des fusiliers marins, des pilotes. Ils ont détenu divers postes dans l'Église, instructeurs, missionnaires, présidents de collège, évêques, présidents de pieux, présidents de mission, instructeurs au foyer, et ce qui est le plus important, mari et père. Ce sont tous des gens qui étudient et enseignent l'Évangile de Jésus-Christ. Ce qui nous unit, c'est notre amour du Sauveur et des enfants de son Père, et notre témoignage qu'il est à la tête de cette Église. Quasiment tous les 12 ont connu d'humbles débuts, comme c'était le cas du Christ quand il était ici. Les 12 vivants sont soudés les uns aux autres dans le ministère de l'Évangile de Jésus-Christ. Quand l'appel lui est venu, chacun d'eux a déposé ses filets, pour ainsi dire, et a suivi le Seigneur. Nous nous souvenons du président Kimball pour sa phrase « Ma phrase est comme mes chaussures, à user jusqu'à la corde ». Cela s'applique à tous les membres des 12. Nous nous usons aussi au service du Seigneur. Nous le faisons de bon cœur. Ce n'est pas une vie facile pour nous, ni pour nos familles. Je ne trouve pas les mots pour décrire l'apport, les services et le sacrifice consentis par les femmes des dirigeants de la prêtrise dans le monde. Il y a quelque temps, vers le même moment, ma femme et moi et sœur Bala, ma femme et sœur Bala ont subi une intervention chirurgicale très douloureuse dans le dos. Tous deux vont bien, ni l'une ni l'autre ne s'est plainte. L'exclamation de ma femme qui pouvait ressembler le plus à une plainte a été « ça n'a rien d'amusant ». Les 12 ont aussi le devoir, sous la direction de la première présidence, d'ordonner et d'organiser tous les autres officiers de l'Église conformément à la révélation. Nous avons maintenant des moyens par lesquels nous pouvons enseigner et témoigner aux dirigeants et aux membres partout dans le monde. Mais pour conférer les clés de l'autorité dans cette ligne ininterrompue aux dirigeants de la prêtrise par l'imposition des mains, partout où ils sont dans le monde, l'un de nous doit être là chaque fois. Le Seigneur a dit, et de plus, je te dis que quiconque tu enverras en mon nom, par la voix de tes frères, les 12, dûment recommandé et autorisé par toi, aura le pouvoir d'ouvrir la porte de mon royaume à toute nation où tu l'enverras. Les Écritures décrivent les 12 comme des conseillers voyageurs. Je ne diffère en aucune façon de mes frères des 12, des 70 et de l'Épiscopat avec qui j'œuvre depuis 47 ans. Quand je vous dis que les registres montrent que je suis allé plus de 75 fois au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, plus de 50 fois en Europe, 25 fois au Canada, 10 fois dans les îles du Pacifique Sud, 10 fois en Asie, 4 fois en Afrique, 2 fois en Chine, en Israël, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en République Dominicaine, en Inde, au Pakistan, en Égypte et dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits du monde. Et certains ont voyagé encore plus que cela. Les apôtres détiennent toutes les clés de la prêtrise. Néanmoins, tous les dirigeants comme aussi les membres peuvent recevoir la révélation personnelle. En fait, il est attendu d'eux qu'ils la demandent par la prière et agissent en conséquence par la foi. Car par lui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et maintenant, Elder Christopherson pourrait se demander, comme je l'ai fait, pourquoi faut-il qu'on ordonne quelqu'un comme moi au Saint-Apostolat? Il y a tellement de qualifications qui me manquent. Il y a tant de déficiences dans mes efforts pour servir. Il n'y a qu'une chose, une seule qualification qui peut l'expliquer. Comme Pierre et tous ceux qui ont été ordonnés depuis, j'ai ce témoignage. Je sais que Dieu est notre Père. Il a présenté son Fils Jésus-Christ à Joseph Smith. Je vous déclare que je sais que Jésus est le Christ. Je sais qu'il vit. Il est né au midi des temps. Il a enseigné son évangile et a été mis à l'épreuve. Il a souffert, a été crucifié et est ressuscité le troisième jour. Comme son père, il a un corps de chair et d'os. Il a accompli son expiation. Je suis son témoin. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir just sang.
Le chœur vient de chanter. Éternel est notre espace. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Après mon discours, le chœur terminera la session en chantant Tout au sommet des monts. Ensuite, Benjamin de Hoyos, des 70, fera la prière de clôture. Et la dernière session de cette conférence commencera à 14h cet après-midi. Je pense que cette session a été remarquable. Les messages ont été inspirants. La musique a été magnifique. Les témoignages, sincères. Je pense que chaque personne qui a assisté à cette session ne l'oubliera jamais pour l'esprit que vous avez ressenti. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a 44 ans, en octobre 1963, je me tenais au pupitre du tabernacle juste après avoir été soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres. À cette occasion, j'ai mentionné une petite pancarte que j'avais vue sur un autre pupitre. Le texte disait que celui qui se tient à ce pupitre soit humble. Je peux vous assurer que mon appel aux 12 m'a rempli d'humilité à ce moment-là. Cependant, au moment où je me tiens à ce pupitre, si aujourd'hui, je m'adresse à vous dans les profondeurs absolues de l'humilité, je sens très fortement à quel point je dépends du Seigneur. Je souhaite humblement que l'Esprit me guide pendant que je vous exprime ce que je ressens. Il y a tout juste 2 mois, nous disions adieu à notre cher ami et dirigeant Gordon B. Hinckley, 15e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un ambassadeur exceptionnel de la vérité auprès du monde entier et aimé de tous. Il nous manque. Plus de 53 000 hommes, femmes et enfants sont allés jusqu'à la belle salle des prophètes, dans ce bâtiment même, pour rendre un dernier hommage à ce géant du Seigneur qui appartient maintenant à l'éternité. Avec le décès du président Hinckley, la première présidence a été dissoute. Le président Eyring et moi, qui étions ses conseillers, nous avons repris notre place au Collège des 12 apôtres, et c'est ce collège qui est devenu l'autorité présidente de l'Église. Le samedi 2 février 2008, le service funèbre du président Hinckley a eu lieu dans ce magnifique centre de conférence, un bâtiment qui sera dorénavant un monument érigé à sa prévoyance et à sa vision. Pendant les funérailles, de beaux et affectueux hommages ont été rendus à cet homme de Dieu. Et le lendemain, les 14 apôtres ordonnés, vivant sur la terre, se sont assemblés dans une salle d'étage du temple de Salt Lake City. Nous nous sommes réunis dans le jeûne et dans la prière. Pendant cette réunion solennelle et sacrée, la présidence de l'Église a été réorganisée selon un précédent bien établi, d'après le modèle que le Seigneur lui-même a mis en place. Les membres de l'Église du monde se sont réunis hier pour une assemblée solennelle. Vous avez levé la main pour un vote de soutien pour approuver ce qui a été fait lors de cette réunion dans le temple dont je viens juste de parler. Pendant que vos mains étaient levées vers le ciel, j'ai eu le cœur touché. J'ai senti votre amour et votre appui, ainsi que votre engagement vis-à-vis du Seigneur. Je sais sans aucun doute, mes frères et sœurs, que Dieu vit. Je vous témoigne que ceci est son œuvre. Je témoigne également que notre Sauveur Jésus-Christ est à la tête de cette Église qui porte son nom. Je sais que la plus belle expérience de toute cette vie est de sentir les incitations par lesquelles il nous dirige pour faire avancer son œuvre. J'ai senti ces incitations quand j'étais jeune évêque et que j'étais guidé vers les maisons où il y avait des besoins spirituels, ou peut-être temporels. Je les ai sentis de nouveau comme présents de mission à Toronto, au Canada, travaillant avec de merveilleux missionnaires qui étaient un témoignage vivant au monde que cette œuvre est divine et que nous sommes dirigés par un prophète. Je les ai sentis pendant tout mon service parmi les 12 et dans la première présidence et maintenant comme président de l'Église. Je témoigne que chacun de nous peut sentir l'inspiration du Seigneur en vivant de manière digne et en s'efforçant de le servir. Je pense très fort aux 15 hommes qui m'ont précédé comme président de l'Église. J'ai personnellement connu beaucoup d'entre eux. J'ai eu la bénédiction et l'honneur d'être conseiller de 3 d'entre eux. Je suis reconnaissant du legs permanent laissé par chacun de ces 15 hommes. J'ai la connaissance sûre et je suis certain qu'il l'avait aussi, que Dieu dirige son prophète. Je prie de tout cœur de pouvoir continuer à être un instrument digne entre ses mains pour poursuivre cette grande œuvre et pour m'acquitter des responsabilités énormes qui s'attachent à la fonction de président. Je remercie le Seigneur des merveilleux conseillers que j'ai. Les présidents Eyring et Uchtdorf sont des hommes d'une grande compétence et d'une intelligence saine. Ce sont des conseillers au véritable sens du terme. Je chéris leur jugement. J'ai la conviction qu'ils ont été préparés par le Seigneur pour le poste qu'ils occupent maintenant. J'aime les membres du Collège des 12 apôtres et je chéris mes relations avec eux. Ils sont eux aussi dévoués à l'œuvre du Seigneur et passent leur vie à son service. Je me réjouis déjà de travailler avec Elder Christofferson, qui a maintenant été appelé à ce collège, et à qui vous avez manifesté votre soutien. Lui aussi a été préparé pour le poste auquel il a été appelé. J'ai aussi eu de la joie à travailler avec les membres des collèges des 70 et avec l'épiscopat président. De nouveaux membres des 70 ont été appelés et ont été soutenus hier, et je me réjouis de les côtoyer dans l'œuvre du Maître. Un merveilleux esprit d'unité existe parmi les autorités générales. Le Seigneur a déclaré, « Si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » Nous continuerons à être unis dans un but, celui de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Je voudrais exprimer mes remerciements à mon Père Céleste pour ses innombrables bénédictions. Je peux dire, comme Néphi autrefois, que je suis né de bons parents, dont les parents et les grands-parents ont été rassemblés de Suède, d'Écosse et d'Angleterre par des missionnaires dévoués. Ces missionnaires ont rendu d'humbles témoignages et ils ont touché le cœur et l'esprit de mes ancêtres. Après être devenus membres de l'Église, ces hommes, femmes et enfants nobles ont fait le chemin jusqu'à la vallée du Grand Lac Salé. Nombreuses ont été les épreuves et les souffrances qu'ils ont rencontrées en chemin. Au printemps de 1848, mes arrière-arrière-grands-parents, Charles Stuart Miller et Mary McGowan Miller, qui étaient devenus membres de l'Église dans leur Écosse natale, sont partis de chez eux à Rutter Glen en Écosse et se sont rendus jusqu'à Saint-Louis avec un groupe de saints pour y arriver en 1849. Margaret, un de leurs 11 enfants, allait devenir mon arrière-grand-mère. Tandis que la famille était à Saint-Louis, à travailler pour gagner assez d'argent pour terminer son voyage jusqu'à la vallée du lac Salé. Une épidémie de choléra a balayé la région, semant la mort et la souffrance. La famille Miller a été gravement atteinte. En 2 semaines, 4 des membres de la famille ont succombé. Le premier, le 22 juin 1849, était William, de 18 ans. 5 jours plus tard, Mary McGowan Miller, mon arrière-arrière-grand-mère et la mère de la famille, mourait. Deux jours après, Archibald, 15 ans, décédait. Et cinq jours après sa mort, mon arrière-arrière-grand-père, Charles Stuart Miller, père de la famille, succombait. Les enfants survivants se retrouvaient orphelins, notamment mon arrière-grand-mère Margaret, qui avait alors 13 ans. Les décès étant si nombreux dans la région qu'il n'y avait plus de cercueil disponible, à quelque prix que ce soit, pour y déposer les membres de la famille décédée. Les garçons survivants plus âgés ont démonté les enclos des bœufs pour faire des cercueils pour les membres de la famille qui étaient décédés. On a peu d'écrit sur le chagrin et les difficultés des 9 enfants Miller restants qui ont dû continuer à travailler et à économiser pour ce voyage que leurs parents et leurs frères ne feraient jamais. Nous savons qu'ils ont quitté Saint-Louis au printemps de 1850 avec 4 bœufs et un chariot pour arriver enfin la même année dans la vallée du lac Salé. D'autres de mes ancêtres ont affronté des difficultés semblables. Cependant, dans tout cela, leur témoignage est resté immuable et ferme. Ils m'ont tous laissé un héritage de consécration totale à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est grâce à ces âmes fidèles que je me tiens aujourd'hui devant vous. Je remercie mon Père Céleste pour Frances, ma chère épouse. En octobre prochain, nous allons, elle et moi, fêter 60 merveilleuses années de mariage. Bien que mon service dans l'Église ait commencé à un jeune âge, elle ne s'est jamais plainte une seule fois quand je quittais la maison pour assister à des réunions ou pour accomplir une tâche. Pendant de nombreuses années, mes devoirs de membre des 12 m'ont souvent éloigné de Salt Lake City, parfois pendant 5 semaines d'affilée, la laissant seule pour s'occuper de nos petits-enfants et de notre maison. À partir du moment où j'ai été appelé comme évêque à l'âge de 22 ans, nous avons rarement eu le luxe d'être assis ensemble pendant un office religieux. Je n'aurais pas pu demander un conjoint plus fidèle, plus aimant et plus compréhensif. Je remercie mon Père Céleste pour nos 3 enfants et leurs conjoints, pour nos 8 petits-enfants merveilleux et pour nos 4 beaux arrière-petits-enfants. Il m'est difficile de trouver les mots pour vous faire part, mes frères et sœurs, de mon appréciation sincère pour la vie que vous menez, pour le bien que vous faites, pour le témoignage que vous rendez. Vous vous servez les uns les autres de bon cœur. Vous êtes dévoués à l'Évangile de Jésus-Christ. Pendant plus de 44 ans comme autorité générale, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier. L'une de mes plus grandes joies a été de vous rencontrer, vous, les membres, partout où vous êtes, de sentir votre esprit et votre amour. J'espère bien avoir encore beaucoup d'occasions de ce genre. Pendant tout le voyage, le long du chemin de la vie, il y a des pertes. Certains s'écartent des indicateurs routiers qui montrent la direction de la vie éternelle pour s'apercevoir finalement que le détour choisi mène en fin de compte à une impasse. L'indifférence, la négligence, l'égoïsme et le péché sont toutes des choses qui coûtent cher en vie humaine. Tout le monde peut changer en mieux. Au cours des années, nous avons publié des appels aux non-pratiquants, à ceux qui ont été blessés, à ceux qui sont critiques, aux transgresseurs, pour qu'ils reviennent. Revenez et faites-vous un festin à la table du Seigneur et goûtez de nouveau aux fruits délicieux et satisfaisants de la communion avec les saints. Dans le sanctuaire privé de notre conscience se trouve l'Esprit, la volonté de nous débarrasser du vieil homme et de nous montrer à la hauteur de notre vrai potentiel. Dans cet Esprit, nous lançons de nouveau cette invitation sincère
revenez. Nous vous tendons la main dans l'amour pur du Christ et exprimons notre désir de vous aider et de vous accueillir comme membre à part entière. Nous disons à ceux dont l'esprit est blessé ou qui se débattent dans les problèmes et la crainte, laissez-nous vous aider, vous réconforter et apaiser vos craintes. Prenez à la lettre l'invitation du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il a été dit du Sauveur qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, car Dieu était avec lui. Puissions-nous suivre cet exemple parfait. Dans cette traversée parfois périlleuse de la condition mortelle, puissions-nous également suivre ce conseil de l'apôtre Paul qui nous aidera à rester sains et saufs et sur la bonne voie. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'invite les membres de l'Église, où qu'ils soient, à faire preuve de bonté et de respect pour tout le monde. Le monde où nous vivons est rempli de diversité. Nous pouvons et devons montrer du respect envers ceux dont les croyances diffèrent des nôtres. Puissions-nous également faire preuve de bonté et d'amour dans notre propre famille. Notre foyer doit être plus qu'un sanctuaire. Il doit également être un endroit où l'Esprit de Dieu peut demeurer, un endroit dont la tempête ne franchit pas la porte, où l'amour règne et où la paix demeure. Le monde peut parfois être un endroit effrayant à vivre. Le tissu moral de la société semble s'effilocher à une vitesse alarmante. Personne, jeune, vieux ou entre deux âges, n'est à l'abri des choses qui ont le potentiel de nous faire chuter et de nous détruire. Nos jeunes précieux en particulier, affrontent des tentations que nous avons du mal à imaginer. L'adversaire et ses hordes semblent travailler sans arrêt à causer notre perte. Nous sommes en guerre contre le péché, mes frères et sœurs. Mais nous ne devons pas désespérer. C'est une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Notre Père Céleste nous a donné les outils dont nous avons besoin pour cela. Il est à la barre. Nous n'avons rien à craindre. Il est le Dieu de la lumière. Il est le Dieu de l'espérance. Je témoigne qu'il aime chacun de nous. Chacun de nous. La condition mortelle est une période de mise à l'épreuve, un temps pour nous montrer dignes de retourner en la présence de notre Père Céleste. Pour être mis à l'épreuve, nous devons parfois affronter des défis et des difficultés. On a parfois l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, de ne pas voir d'aube pour rompre les ténèbres de la nuit. Nous nous sentons entourés par la douleur des cœurs brisés, la déception des rêves réduits à néant et le désespoir des espérances envolées. Nous unissons nos voix à la question biblique, n'y a-t-il point de baume en Galade? Nous sommes enclins à contempler nos malheurs personnels à travers le prisme déformant du pessimisme. Nous nous sentons abandonnés, écrasés de chagrin, seuls. Si vous vous trouvez dans une telle situation, je vous supplie de vous tourner avec foi vers notre Père céleste. Il vous aidera et vous guidera. Il ne vous ôtera pas toujours vos afflictions, mais il vous consolera et vous fera traverser avec amour la tempête, quelle qu'elle soit. De tout mon cœur et de toute la ferveur de mon âme, j'élève aujourd'hui la voix pour témoigner en tant que témoin spécial, et je déclare que Dieu vit. Jésus est son Fils, le Fils unique du Père dans la chair. Il est notre Rédempteur. Il est notre Médiateur auprès du Père. Il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas tout à fait comprendre. Et parce qu'il nous aime, il a donné sa vie pour nous. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers lui. J'appelle ses bénédictions sur vous, mes frères et sœurs bien-aimés, chez vous, au travail, dans vos services mutuels et votre service au Seigneur lui-même. Ensemble, nous irons de l'avant pour accomplir son œuvre. J'engage ma vie, ma force et tout ce que j'ai à offrir à son service et à la direction des affaires de son Église, selon sa volonté et par son inspiration. Et je le fais en son saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'avoir pu ressentir ton esprit et ta main pendant cette conférence historique. Nous te remercions pour la grande bénédiction qui est donnée au sein des derniers jours dans tout le monde pendant cette expérience spéciale et spirituelle. Nous te remercions pour ta direction inspirée de tes prophètes et serviteurs que nous avons reçus durant cette session. Nous te remercions pour le privilège que nous avons eu de soutenir le président Thomas S. Monson et ses conseillers. Nous les aimons, Père, et nous te demandons de les bénir. Nous te remercions pour la direction inspirée de tes prophètes et serviteurs que nous avons entendus durant cette session. Maintenant, nous te demandons de bénir tous les membres fidèles, les missionnaires dans le monde qui te servent. S'il te plaît, Père, fortifie-les pour qu'ils puissent endurer toutes les épreuves. S'il te plaît, protège-les avec ta puissance. Père, nous t'aimons. Te disons que nous voulons être bénis et que nous avons le désir de rester fidèles, d'avoir des familles fortes. Et nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 178th.
Vous venez d'assister à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.